Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Actualité cinéma et tout le reste.
Ça te satisfait?
Intensément.
Sur Divergence FM.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Ici, avec nous.
Le silence va plus vite à reculons. Trois fois.
Cinérama sur Divergence FM.
Eh bien, je vous écoute.
Bonjour, c'est Cinérama, un cinérama... Eh bien, entièrement consacré au cinéma, d'une émission qui se déroule de 13h30 à 14h30 et qui a une rediffusion le même jour de 18h à 19h. Le moment du cinéma, c'est un moment où on mange beaucoup de sandwich, enfin pour peu qu'on le couvre, et où on dort peu. Est-ce que vous confirmez, Martin Boris?
Oui, tout à fait. Hein. Voilà, on passe beaucoup de temps entre deux salles, entre deux films, à boire des cafés au bar du Corum. Un moment à ne pas rater. Hein.
Un moment de détente, mais de travail intense, puisque nous allons proposer eh bien, un certain nombre de chroniques, puisque eh bien, tous les trois, nous sommes allés voir plusieurs films parmi les 130 longs-métrages et 230 films proposés entre les documentaires, les courts-métrages et les longs-métrages. Et on va dérouler le sommaire maintenant, avec toi Boris peut-être.
Bonjour à tous. Alors pour ma part, je me suis rendu au Corum afin d'assister à l'avant-première du dernier film d'Amenabar, à savoir Agora. Donc ça va me permettre de reprendre rapidement sa filmographie. Donc il a pas fait non plus énormément de films jusqu'à présent. Notre cher espagnol et d'origine chilienne d'ailleurs. Et voilà. Et sinon, j'étais allé voir aussi dans le cadre de l'hommage rendu à Elio Petri, un de ses films. Et j'ai assisté également à la conférence de presse. Bon, je sais pas, là pour aujourd'hui, il y aura certainement pas de son provenant de cette conférence. Peut-être que je ferai une spéciale Petri un de ces jours. On verra. Hein. Voilà, pour ma part, ce sera tout.
Voilà, beaucoup d'ambition au départ.
Beaucoup d'ambition
finalement à l'arrivée. Hein. Mais bon, c'est indépendant de ta bonne volonté. Martin, toi, t'as vu pas mal de films.
Voilà, alors pour ma part, moi, j'ai vu trois films dans le cadre du Festimed. Donc, je vous parlerai d'un film croate, je vous parlerai d'un film italien, ainsi que d'un film espagnol dans le cadre de la sélection Cinéma Espagnol Fantastique. Et je vous parlerai aussi d'un petit festival qui se déroule en même temps au Diagonale, le Festimed Alternatif, proposé par Antoine Pérenniguez. Et j'en profiterai donc pour vous parler un petit peu d'une ressortie d'un film de Sergio Leone qu'il faut aller voir si vous ne l'avez pas encore vu et qu'il faut aller revoir si vous l'avez déjà vu.
Et moi, j'ai vu C'est quoi la vie de François Dupeyron. François Dupeyron, qui était l'invité du Cinémed, il nous parlera de la lumière, parce qu'il a vraiment une lumière particulière sur ce film. Alors François Dupeyron, c'est celui qui a fait La Chambre des Officiers et qui a repris le film de Claude Berry, Trésor, donc un film post-mortem de Claude Berry, donc qui est co-signé avec Dupeyron. Et on parlera aussi de la nuit américaine pendant les westerns, qui selon lui est la meilleure illustration de ce qu'on peut voir, de ce que peut voir l'œil humain pendant la nuit, et qui se perd au cinéma puisque toutes les nuits au cinéma sont noires. Enfin voilà, c'était plutôt passionnant cette rencontre avec François Dupeyron. Et puis pour le cinéma, moi j'ai vu un certain nombre de films, mais j'en parlerai que si j'ai le temps. Et puis sinon, j'ai vu Rachel de Simone Bitton, un documentaire qui se passe en Israël. Donc ça, j'aurais dû avoir les sons la semaine dernière, j'ai pas pu vous les présenter. Et puis Casanegra de Noureddine Lakhmari, un film marocain tourné en cinémascope avec le langage de la rue et qui montre un Casablanca qui fait froid dans le dos aux religieux. Voilà. Ainsi, début de Cinérama.
Et on commence tout de suite donc avec le festival méditerranéen. Le festival méditerranéen, on s'en lasse pas, hein, vraiment, ce quorum titanique de marbre rose qui brille de mille feux sous le ciel d'automne, ces buffets incroyables auxquels seule une poignée d'élus pourra participer, ces salles magnifiques dans lesquelles les spectateurs se pressent dans leurs plus beaux atours pour découvrir sur des écrans plus grands que votre appartement des histoires venues d'ailleurs qui vont les faire voyager à le Festimed. Et une fois nos fesses amoureusement blotties dans les fauteuils des salles Pasteur et Einstein, au cuir aussi doux que de la soie, quel délice de découvrir les malheurs de Toufik, petit chauffeur de taxi libanais qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, Quel bonheur d'assister à la crucifixion par sa propre famille d'Ismaël, un jeune habitant de Jérusalem qui a osé braver l'interdit et avouer son homosexualité. Quelle joie ineffable de suivre la descente aux enfers de Liliana, qui n'a d'autre espoir que de vendre son corps pour nourrir sa famille dans la Croatie moderne. Bon allez, j'arrête. Ça, c'était juste pour râler un petit peu, vu que eh bien, chaque année, moi, je suis assez frappé par le contraste entre le cadre fastueux du festival et le contenu des films projetés. Voilà. Mais bon, c'est quand même rien à côté de ce qu'on peut voir à Cannes, qui fait une débauche de luxe.
Il y a encore plus de démesure à Cannes.
Exactement, et qui donne la palme à un petit film roumain voilà, qui parle de la misère. Mais bon, nous en sommes donc au sixième jour du Festimed, QV 2009. Et bon, pour l'instant, je n'ai vu que trois films. Alors je sais, c'est pas beaucoup. Vous savez, les gens honnêtes, ils travaillent pendant les vacances de la Toussaint. Et moi, je suis un genre honnête. Donc j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Mais bon, pour le moment, je vais déjà vous parler de ce que j'ai pu voir. Alors le premier film que j'ai pu découvrir fait partie de la sélection officielle en compétition. Il s'agit de In the Land of Wonders, du réalisateur croate Sorak Dejan. Donc ce film nous raconte l'histoire d'Alitsa, une petite fille d'une dizaine d'années qui essaye de survivre dans son pays, la Croatie, rongée par des années de guerre. Et pour gagner de quoi vivre, elle travaille avec son oncle qui récupère les obus non éclatés et les shrapnels enfouis dans le sol d'une base militaire américaine abandonnée. Donc malheureusement, des médecins diagnostiquent chez son oncle un cancer avancé dû à l'uranium appauvri qui est contenu dans les munitions. Et bon, la mère d'Alicia, inquiète, l'emmène passer des examens qui vont se révéler positif. Donc commence alors pour la petite fille un périple qui va l'emmener de rencontre en rencontre dans ce pays des merveilles, Land of Wonders. Alors In the Land of Wonders joue la carte de l'émotion hein, pour nous sensibiliser au malheur de la petite Alitsa. Comme le suggère l'un des personnages qui propose d'utiliser le cancer de la gamine pour récolter un maximum d'argent grâce à un procès, eh bien le réalisateur capitalise sur son prétexte de départ pour nous offrir un scénario digne d'un téléfilm français à message diffusé en prime time sur France 3. Mais bon, on va pas tirer sur l'ambulance non plus. Hein. Sorak Dejan parvient, malgré des moyens très limités, à produire une histoire assez touchante et souvent juste sur cette jeunesse brisée par les conflits. Une jeunesse obligée de grandir à toute vitesse pour ne pas se faire dévorer par les loups que les guerres engendrent. Alors on suit la petite Alitsa, confiée aux bons soins d'un vétéran de guerre, le temps que sa mère aille gagner l'argent nécessaire au traitement en vendant son corps à Munich. Et rapidement, les traumatismes ressurgissent. L'homme chargé de s'occuper de l'enfant va la faire fuir et la jeter sur les routes. Alors heureusement, la petite Alitsa va tomber sur un vagabond qui va la prendre sous son aile et s'enticher de son mauvais caractère et de sa fragilité. Et c'est de cette relation entre deux êtres aussi dissemblables que le réalisateur va faire naître l'émotion, mais également un certain humour, avant de nous achever avec un dernier acte digne d'un grand drame hollywoodien, avec les millions de dollars et Tom Hanks en moins, bien sûr. Donc la jeune comédienne qui interprète Alitsa est plutôt convaincante hein, dans le genre gamine monolithique à la répartie et à la débrouillardise confirmée, mais on a quand même un peu plus de mal à accrocher dans les scènes d'émotion, même si certaines parviennent à fonctionner grâce à une économie stylistique assez bienvenue et au reste du casting qui nous offre une interprétation classique mais assez efficace au final. Donc In the Land of Wonders me semble difficilement défendable hein, à la vue de son esthétique banale qui est complètement handicapée par le manque flagrant de moyens, à la vue de son scénario surtout qui nous ressort une charrette de poncif qui évoque autant la cinématographie américaine que eh bien, les clichés d'un certain cinéma arrêt-essai de festival, avec ses personnages bourrus mais finalement attachants, ses prostituées au grand cœur et surtout ses gamines sur lesquelles le monde ne semble pas avoir de prise ou si peu. Donc en voulant faire de son film une variation autour d'Alice au Pays des Merveilles, Sorak Dejan nous sert surtout une nouvelle variation convenue autour du thème de l'innocence perdue et de l'enfance meurtrie par la guerre. Donc seule la modestie de l'ensemble élève un peu le film au-dessus du tout venant, mais bon, dans un genre proche, hein, pour un résultat bien plus excellent, je ne peux que vous conseiller d'aller voir ou revoir Le Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro, qui passe également dans le cadre du Festimed, ou de vous procurer le Tideland de Terry Gilliam en DVD, voilà, qui abordait aussi dans un genre un peu différent, et puis surtout avec beaucoup plus de moyens, une histoire similaire avec une gamine confrontée à beaucoup de malheurs et qui essaye de s'en sortir. Voilà donc In the Land of Wonder de Sorak Dejan à recommander aux inconditionnels seulement.
Et c'est projeté quand? Il y a peut-être une nouvelle projection?
Voilà, alors la prochaine projection, et la seule d'ailleurs, puisque les films passent deux fois en général, ce sera le 29 octobre à 22h, voilà, salle Pasteur au Quorum, le 29 octobre.
Merci Martin. On passe donc bien tout de suite à François Duperron parce que j'ai mêlé l'interview avec bien des sons de son film C'est quoi la vie. Donc ça va faire une petite respiration dans ce cinérama. Donc François Duperron a présenté son film C'est quoi la vie. Il a surtout présenté Trésor, mais moi j'ai préféré aller voir C'est quoi la vie. Donc c'est un film de 99 sur le monde paysan qui a été tourné d'ailleurs en Lozère sur le Causse avec Eric Caravaca qui n'est pas forcément connu mais qui a joué dans le film de Lucas Bellevaux La raison du plus faible. Et puis il y a aussi Jacques Dufilhault dans ce film C'est quoi la vie qui joue un vieux paysan de 85 ans. Je crois qu'après il n'a plus trop fait de films Jacques Dufilhault, donc un acteur, surtout un comédien de théâtre hein, qui incarne formidablement bien un homme qui perd la boule suite au suicide d'ailleurs de Jean-Pierre Darroussin qui lui est agriculteur et qui au bout d'un moment eh bien, a peine à faire face aux conséquences de la vache folle, puisque c'est tourné à cette période. Et donc c'est une espèce de petite instantanée comme ça sur le monde paysan, mais ça n'en marque pas la fin à la manière d'un Depardon qui lui a vraiment consacré ses documentaires à la fin d'un monde paysan. Là c'est simplement eh bien, le contexte d'une histoire, celle de Nicolas, donc surtout ce fils et petit-fils qui au bout d'un moment a qu'une envie, c'est de partir du Causse parce qu'il sent que eh bien, la vie là-bas va être toujours la même. Il faut s'occuper des bêtes, il faut semer, il faut voilà, c'est la vie d'un paysan, de quelqu'un qui travaille la terre. Et finalement, eh bien, comme il arrive souvent hein, dans les scénarios de cinéma, il va rencontrer une femme dont il va tomber amoureux et patiemment, eh bien, il va rester, enfin, il va tenter de revoir cette femme et en même temps, il va permettre eh bien, à ses grands-parents de quitter la maison de retraite et il va réinvestir le Causse, une vieille maison qui va retaper. Voilà, ça s'appelle C'est quoi la vie ? Et effectivement, eh bien, c'est plutôt une question philosophique qui est formidablement bien mise en scène par François Duperron. Il sera question de la lumière puisqu'il a travaillé avec un chef-op vraiment très particulier qui, plutôt que de mettre plein de lumière, préfère mettre des caches noires, donc ça veut dire des intérieurs sombres. Et puis ils ont aussi travaillé sur une lumière jaune pour tout ce qui était extérieur. Et François Duperron nous dira que ça correspond à la lumière du Causse quand c'est la tombée de la nuit, enfin un peu avant la tombée de la nuit, à l'automne. On pourra aller vérifier puisqu'on est en plein dans la période. On écoute François Duperron.
Je suis François Duperron et ça m'arrive de réaliser de temps en temps un film.
Il y a un pépin dans le département, j'ai entendu dire. Une vache folle ? On a donné de cette saloperie.
Tu savais, toi, ce qu'il y avait dedans ? On en a tous donné.
Ce que je donnais à mes vaches, je le savais, oui.
Alors, ça tombe bien hein, que vous fassiez cette présentation, parce que hier, quand vous avez présenté C'est quoi la vie, vous avez dit, ça faisait 4 ans que j'avais rien tourné, que j'avais l'impression que je ne savais plus faire de cinéma.
Mais c'est pas que j'avais l'impression, je ne savais plus faire de cinéma. Et d'ailleurs, je ne sais plus trop non plus maintenant. Mais maintenant, je m'en pose plus, c'est plus un problème pour moi, au contraire, je m'en sers. Mais à cette époque-là, je ne savais plus, et puis surtout, je n'arrivais plus. J'avais pas d'idée, j'avais pas d'envie. Dès que j'écrivais quelque chose, ça me plaisait pas. Donc, c'est un marasme total. Donc, ça m'est arrivé 2 fois comme ça, enfin, au moins 2 fois. Mais cette fois-là, 4 ans, c'est long. Et je me disais, il vaut mieux que je change de métier, quoi. Si c'est comme ça, c'est pas pour moi, quoi.
Un paysan, ça peut pas mourir de faim.
Qu'est-ce que tu vas faire ?
Circuler un peu, voir ailleurs. Tu veux que je passe ma vie ici à regarder filer les jours, tous les jours la même chose ? C'est ça, vivre.
Donc vous avez dit hier, pareil, hein, lors de cette présentation, je me suis dit, je ne sais pas ce que c'est que le cinéma, je ne sais pas comment le faire, donc je vais faire comme au début, c'est-à-dire des plans fixes, très peu de mouvements de caméra, voilà. Et quand vous dites ça au producteur, par exemple, lui, qu'est-ce qu'il en pense ? Est-ce qu'il y a une relation de ce type-là, où il est question de la forme ?
Non, je ne lui dis pas ça au producteur, je ne lui dis pas. Je ne lui dis pas, mais je lui ai dit par contre une chose, il ne m'a pas cru, probablement. Je lui ai dit, écoute, je veux faire un film avec un producteur, pas contre. Et je n'ai pas dit la suite, mais qui était dans ma tête, et je me suis comporté comme ça. S'il y a un problème entre nous, c'est toi qui auras raison, pas moi. Sur la forme, en France en tout cas, ça change un peu ceci dit. Mais sur les films comme je fais, on est seul, on fait ce qu'on veut. Heureusement. Et puis la forme, je la découvre en faisant. Donc j'avais cette idée, effectivement, de ce que j'ai expliqué, ce que vous avez bien redit, mais j'aurais pu la modifier en chemin. Et en fait, je ne l'ai pas fait. Mais on est seul, là.
Bah, c'est le début, elle dit que je peux chanter.
Elle te dit que tu peux marcher sur l'eau, tu marcherais sur l'eau. Hein.
Mais non, je t'assure, c'est une femme, une vraie femme. Puis quand je suis avec elle, je me sens bien, moi.
Et elle, tu crois que c'est la même chose ?
Ça, je sais pas, si je me mets à penser à ça, je fous tout en l'air.
Alors, bah, on peut parler aussi de la lumière. Donc, bon, très, très peu de mouvement de caméra. On se dit, bon, bah, c'est un film avec une forme classique. Mais par ailleurs, il y a cette lumière, donc avec des filtres qui donnent une lumière jaune, alors que là, vous filmez quand même eh bien, les causses de la Lozère. Ça aussi, c'est un parti pris quand même très, très, très fort.
Oui, mais ça vient de l'opérateur, ça. Et en fait, c'est une lumière. Donc c'est son idée, et voilà, c'est comme ça qu'il voyait. Et je me suis rendu compte en travaillant sur le COS qu'en fait, ça correspondait à la lumière qu'il y a le soir, avant que le soleil se couche, ça dure à peu près pendant une demi-heure. Et sur le COS, en cette période-là, de octobre-novembre, vous avez la lumière quand les jours sont beaux et clairs, genre ouais, une demi-heure avant le coucher de soleil, à peu près comme ça. Où c'est jaune et ça vire légèrement sur le vert. Moi, ça m'intéressait parce que ce qu'on voit sur les pellicules ou ce qu'on voit sur les écrans de télévision, c'est pas ce que voit l'œil. Même si on peut se dire, tiens, ça s'y rapproche. Non. En fait, ce qu'on voit, c'est selon M. Kodak, selon M. Fuji, selon M. Tube, selon M. je ne sais pas quoi. Donc, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de... Donc c'est une espèce de faux réel. Tout d'un coup, après, dans les années 70, il y a eu la mode des nuits bleues. Bah, les nuits, elles ne sont pas bleues. Elles ne sont pas bleues, les nuits. C'est la pellicule qui fait que... Les nuits, elles ressemblent plus à ce qu'il y avait dans les cinémas américains. On ne voit plus les nuages aujourd'hui quand on fait des plans de nuit. Par contre, à l'œil, on les voit. Et quand les westerns en noir et blanc, par exemple, quand il y a ces nuits américaines, quand c'est bien fait, ça ressemble plus à l'œil, parce que voilà, et pourtant c'est du noir et blanc, et pourtant bon. Donc si on part de ça, je veux dire, donc la couleur, il faut la traiter, il faut s'en occuper autrement, et pas être victime de ce espèce de laisser aller là où d'idée toute faite. Et donc je vais m'en servir plutôt d'une façon émotionnelle. Donc cette espèce de jaune de chaleur, ça a quelque chose de chaleureux qui fait que ça rapproche les gens, qui fait que, alors que quand c'est froid et blanc, ça a tendance à éloigner les gens. Et donc c'est un jeu comme ça entre cette lumière qui peut être donc qui est toujours latérale, qui est toujours assez contrastée, donc qui pourrait être dure, et qui est adoucie par de la fumée et chaleureuse avec cette couleur. Donc c'est un côté plus émotionnel comme ça.
Alors ça, c'est les scènes surtout extérieures hein, qui sont avec ce filtre jaune.
Il n'y a pas de filtre.
Ah oui, d'accord.
On l'a fait après. Sur notre film, sur la chambre des officiers, qui est très jaune aussi, là, il y a un filtre. Mais sur celui-là, non. Et en plus, celui-là, c'était encore de la chimie. C'était pas comme aujourd'hui en électronique.
Je ne sais pas bien où on va tous les deux.
Non ?
Vous savez où vous allez, vous ?
Je marche avec vous.
Et si on se trompe ?
Vous croyez qu'on se trompe ?
Non, si on sait pas où on va, on ne peut pas se tromper.
Et sinon, les scènes d'intérieur, elles, au contraire, étaient plutôt sombres. Et là aussi, c'est un travail de votre chef opérateur.
Je trouve qu'il a un art qui lui est propre. Et que j'ai découvert avec lui, c'est de l'ombre. C'est-à-dire que... Je lui en ai parlé il n'y a pas longtemps, et j'ai cru que c'était lié à sa culture. Et au Japon, avec ce fameux livre de l'éloge de l'ombre, je crois, ou de, je sais plus comment ça s'appelle, de Tanizaki, ouais, je crois que c'est l'éloge de l'ombre. Et je sais plus, enfin, c'est Tanizaki. Et en fait, non, il m'a dit non, au Japon. Donc c'est un truc qui lui est propre, mais qui vient peut-être quand même un peu de sa culture. Ou très souvent, ce qui est important, on va plutôt le laisser dans l'ombre. On ne va pas le montrer. Alors c'est déjà là dans C'est quoi la vie, ça y est. Et après, on l'a vraiment systématisé plus dans la chambre des officiers, où j'avais ce type qui était blessé. Et donc au lieu d'imposer la blessure en permanence, la blessure, on l'a laissée dans l'ombre. Et donc l'ombre, non, je vous regarde là, dans les visages, c'est effectivement, on a cette solution, ou bien on éclaire complètement, ou bien on en laisse une partie du visage dans l'ombre, ce qui sculpte plus le visage, ce qui donne du relief, mais aussi qui émotionnellement est intéressant, parce que ça va laisser cette part d'imagination au spectateur. On en montre juste ce qu'il faut. De temps en temps, un œil, ça suffit. C'est pas la peine de montrer beaucoup plus. Par exemple, si on prend les trucs très 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 connus, par exemple, c'est dans Apocalypse Now.
There's a place in the river I can't remember. Must have been a gardenia plantation or flower plantation at one time.
Et c'est pour une toute autre raison. On voit plus que le crâne de Marlon Brando. Hein, ces lumières, c'est parce qu'il avait terriblement grossi et qu'il voulait pas le montrer, etc., etc. Mais en tout cas, peu importe la raison, à l'arrivée. L'opérateur, c'est un type vraiment qui a du génie, quoi. Et le fait de ne montrer que son crâne, émotionnellement, ça crée quelque chose et ça dit quelque chose, justement, que les mots ne sauraient pas dire. Moi, je trouve que c'est assez passionnant, ça. Je le travaille pas assez maintenant, ça. Il faudrait que je le travaille plus, de jouer plus sur l'ombre.
Voilà, c'était François Dupeyron, donc les mots d'un réalisateur, hein, un créateur d'images sur la lumière au cinéma. À noter qu'il n'y aura pas de nouvelles projections de ces films, malheureusement, mais que C'est quoi la vie, que je vous recommande chaudement, comme dirait Martin, eh bien, ce sera c'est dispo en DVD. Aminabar.
Voilà, on passe finalement à la soirée d'ouverture donc du Festimed. C'était quoi ? C'était samedi soir, je m'y suis rendu et puis
vendredi.
Vendredi soir, soit. Oui, et le lendemain matin, il y avait donc une conférence de presse.
Où tu t'es pas rendu cette
fois-ci. Par contre, je ne me suis pas rendu. Je l'ai récupéré, cette conférence de presse, et j'en ai donc prélevé 2-3 échantillons qui ponctueront cette chronique. Donc le film en question, c'est Agora, c'est donc le 5e film d'Alexandro Amenábar. Alors après les thrillers Thesis, sortis en salle en 96, et Ouvre les yeux en 98, le drame fantastico-horrifique Les autres, sorti en 2001, et le drame sur fond d'handicap et d'euthanasie Mar Adentro, sorti en 2005, Amenábar poursuit donc la démonstration de l'éclectisme de son cinéma et de son savoir-faire en s'emparant ce coup-ci du péplum. Mais comme ses précédentes œuvres l'avaient souvent attesté, là où Amenábar impressionne, c'est dans sa manière de prendre les codes d'un genre à son compte, pour y insérer nombre d'éléments scénaristiques et visionnaires personnels et délivrer une œuvre efficace et foisonnant de sous-registres thématiques. Alors Agora s'implante dans l'Alexandrie romaine du IVe siècle après Jésus-Christ. Le contexte politique est délicat, le rayonnement de l'ère romaine stricto sensu touche à sa fin après 6 siècles d'hégémonie sur le bassin méditerranéen. Les querelles et affrontements entre différents cultes religieux comme le judaïsme, le paganisme et surtout le christianisme sont répétitifs et menacent de plus en plus de tourner en guerre civile dans la capitale égyptienne. Face à la montée en puissance des dévots chrétiens et afin de maintenir l'autorité, Rome se rapproche progressivement du christianisme. Alors, siégeant au sein du gouvernement d'Alexandrie aux côtés de son père, la jeune mathématicienne Hypatie reste distante de ses questions de croyance pour se consacrer à ses recherches en astronomie et à ses méditations philosophiques. Elle enseigne à une petite assemblée de jeunes patriciens, parmi lesquels se compte Oreste, futur préfet d'Égypte qui s'éprend d'elle. L'Alexandrie présentée incarne en fait le centre culturel du bassin méditerranéen, avec ses écoles, sa grande bibliothèque, son phare et le cortège de savants et penseurs qui en parcourent les rues. Mais l'Alexandrie en question est également violente, l'agora de la ville étant régulièrement le témoin de joutes oratoires que se livrent les orateurs fanatiques des différents cultes, comptant sur la misère de la population pour convertir toujours plus de dévots. Donc on va écouter un extrait justement de la conférence de presse du samedi matin, où Amenábar s'exprime sur la violence particulière qui existe dans son film.
Quand on pense à un film de cette époque-là, on pense à des héros avec des épées, mais moi je voulais montrer une autre violence, une violence qui est très sale, qui est très, très manche. Et les héros authentiques dans mon film, ce n'est pas ceux qui utilisent l'épée, mais ceux qui utilisent la tête. Alors, je n'ai pas voulu utiliser le fait de la caméra lente, comme dans le 300, et je voulais au contraire utiliser la caméra rapide pour justement montrer à quel point on est ridicule dans ce type de situation. Il y a un changement permanent de perspective dans les films. Il y a cette vision du haut cosmologique qui nous montre à quel point nous sommes petits. Et ça serait le point de vue d'un extraterrestre hypothétique qui nous regarderait de loin sur la Terre. Et après, on a le regard intime qui correspond au point de vue d'Hypatie, qui nous montre à quel point, même en étant petit, on peut être grand dans la connaissance. Et après, il y a le regard tout autour, et ça, c'est le regard historique.
Donc à la splendeur du patrimoine culturel de la ville s'oppose donc bien la crasse de ces rues bardées d'échoppes et d'étalages en tout genre, où s'entasse une population de miséreux, véritable poudrière de violence s'embrasant régulièrement dans le feu et le sang. Alors, le cœur du film consiste donc en cette reconstitution tant architecturale que sociale et politique de l'Alexandrie du IVe siècle. Les images que crée Amenabar sont tout simplement grandioses et c'est un véritable plaisir de découvrir ce cadre et ce contexte qui, à ma modeste connaissance, n'avait pas été traité au cinéma jusqu'à présent. C'est soigné, crédible et à la hauteur du budget de 60 millions d'euros qui a servi à créer ce film. On va à nouveau écouter un extrait de la conférence avec ce coup-ci Simon De Santiago qui est le producteur exécutif du film.
C'était un défi du moment qu'Alejandro est arrivé avec le scénario. Bon, c'était un défi pour tous, hein. Mais en même temps, on se retrouve pas tous les jours avec un projet comme celui-ci, qui est une vraie expérience. Tout s'est passé très. En fait, ça semble très compliqué, mais tout s'est passé très bien parce qu'Alejandro est très facile. Il travaille très, il est très organisé, très facile. Donc, en fait, ce qui change, c'est la taille du projet. Donc, ça veut dire travailler avec des décors plus grands, travailler avec des équipes plus grandes, plus de figurations, des costumes. Vraiment, ce qu'on a, on a eu de la chance de trouver le financement pour les films, ce qui n'était pas facile. Mais bon, c'est un film pré-crise. Donc, disons, c'est un film qu'on a, on a réussi à financer avant la crise. Aujourd'hui, ça serait un film impossible à faire. Donc, je crois qu'on a profité du fait que le film a pu être fait. Et le film est tourné entièrement à Malte. On a regardé plusieurs endroits dans la Méditerranée pour faire ce film. Mais vraiment, Malte était très facile. On a construit la plupart des décors, donc, ce qui fait un peu le coût du film. Bon, Alejandro peut-être peut parler après si ça vous intéresse un peu de pourquoi il voulait les décors. Et on a construit tout l'ensemble de la bibliothèque, ce qui était vraiment impressionnant. Et c'est ce qui donne aussi au film un côté très physique qu'on voit pas très souvent dans les films aujourd'hui où les numériques s'imposent des fois un peu trop. Et voilà, mais c'était un défi, mais c'était un défi pour lui, c'était un défi pour tout le monde, mais je crois que les films est très réussi.
Voilà, donc les images du film sont effectivement belles, et puis le travail de reconstitution, que ce soit au niveau architectural ou alors au niveau des costumes, est assez important, mais ce n'est pourtant pas ça qu'on retiendra du film, car fidèle à lui-même, Amenabar livre avec sa copie un scénario complexe et passionnant. Il y a donc tout d'abord la figure de cette femme en décalage avec son temps. Dotée d'une plastique sans défaut, la jeune femme ne va rien consacrer à sa sexualité pour autant, malgré les avances d'Oreste. Protégée dans un premier temps par l'aura de son père, elle va par la suite assumer complètement son choix de carrière et résister aux conventions. Hypatie représente la lutte de la pensée libre et de l'intelligence dans un monde où le dogme et la bêtise prennent le pas sur le bon sens et l'idée même de progrès. On retrouvera cette lutte lorsque plus tard, la chrétienté établie lui reprochera son paganisme, auquel elle ne renoncera pas, préférant consacrer ses ressources intellectuelles à ses travaux sur le modèle héliocentrique. Pourtant, l'histoire est en marche et les années qui vont permettre à Oreste d'accéder au rang de préfet vont aussi être celles qui vont définitivement consacrer la religion chrétienne au rang de religion principale, reconnue par l'Empire romain sous l'empereur Théodose. Amenabar s'y prend d'une habile manière pour rendre compréhensible cette progression avec inversion de paradigme et révéler la véritable ambition d'Agora. On va voir que la montée du christianisme repose sur la crédulité de défavorisés, animée par la nécessité, ainsi que sur les élucubrations tour à tour accusatrices et réconfortantes de fanatiques performants. La résultante fera tout autant sourire jeune lorsque bourreau et victime s'inversent et que le nouveau lot de représentants chrétiens en belle tenue d'apparat remplace en lieu et place les anciens mentors païens. Ce qu'il en ressort ainsi tient moins de la critique du christianisme comme religion, mais de la critique pure du dogmatisme dénoncé comme bêtise, au nom duquel les individus sont prêts à arracher des vies ou à donner la leur. Amenabar n'aura de cesse de lui opposer la philosophie d'Hypatie qui recherche pragmatiquement un idéal, non pas individualiste, mais pour l'espèce humaine. Avec la destruction de la grande bibliothèque, Amenabar finit d'enfoncer un clou maintenant parfaitement planté. L'homme à l'état de foule est aveugle, bernable, agressif et stupide, agité et dispersé, bref, semblable vu de la stratosphère à une fourmilière en proie à la panique, comme un certain nombre de plans dans le film le soulignent. Outil du scénario, les personnages du film illustrent des figures de chacune des classes en présence. Davus, esclave de conditions au service d'Hypatie, dont il tombe également amoureux, incarne l'individu isolé par la société. Il cherche la considération qu'il pense trouver dans le christianisme. Oreste, ancien disciple d'Hypatie, devient le préfet d'Alexandrie. Amoureux d'elle, il devra se contenter de sa présence en tant que conseillère. L'articulation en fait de ces trois personnages va permettre au récit de garder un point d'accroche pour le spectateur et ainsi de passer d'un groupe à l'autre d'une manière assez fluide, avec donc toujours un regard intégré dans chacune de ces communautés pour justement en déceler toute la teneur. Donc voilà, Agora, c'est un film qui va surprendre certainement, je pense, les amateurs d'Amenabar et de sa filmographie qui, quand même, il est vrai, était relativement centré sur le fantastique jusqu'à présent. Il y a une petite touche fantastique dans Agora, mais qui reste largement mineure. Donc là, il y a vraiment, avec ce film, qui avait une tentative d'émancipation, une tentative de toucher à autre chose. Kubrick, par exemple, avait fait avec un certain nombre de ses films, de sa filmographie. Il a réussi avec brio à passer très facilement d'un genre à un autre, en signant à chaque fois de très grands films. Amenabar sensiblement entame cette espèce de tournant dans sa carrière qu'il avait déjà entamé avec Mara d'Intro en passant sur un drame psychologique. Voilà, moi je vous conseille à sa sortie d'aller voir ce film. Il n'est pas forcément évident à appréhender parce qu'encore une fois il y a quand même un travail assez nourri de fait sur cette période de l'ère romaine, donc il faut être un petit peu quand même, je pense, briefé sur les tenants et aboutissants pour être...
Oui, il faut passer à la médiathèque Émile Zola avant,
par exemple, je sais pas, bouquiner, c'est sûr, parce que j'en ai parlé un petit peu avec des gens en sortant de la projection et il y en a beaucoup qui trouvaient, et puis même d'ailleurs dans la conférence de presse, une journaliste l'a évoqué, à savoir si c'était pas un film un petit peu, il y avait l'ambition certes, mais aussi un petit peu...
Un peu érudit.
Voilà. Et lui, dit que clairement, il a un projet en tête, il travaille dessus. Pour le scénario, il y avait Matteo Gil, donc un grand collaborateur d'Amenabar, donc ils ont travaillé ensemble sur la chose, mais c'est un projet personnel qu'il a mené de bout en bout et il travaille par passion, quoi, ce garçon.
En tout cas, il y a 60 patates à rembourser, donc il s'agirait d'aller le voir.
Ouais,
donc, on sait quand il va sortir, d'ailleurs.
C'est ça, oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'était donc vraiment une avant-première mondiale. D'ailleurs, Bourgeot a bien insisté là-dessus. En gros, le film sort le 3 janvier. Donc voilà, il y a quand même de quoi voir venir par rapport à ce film.
Merci Boris. On va continuer avec, non pas le Festimed, mais c'est le Cinémed. Martin, t'arrêtes pas de dire Festimed.
D'accord, mais moi j'aime bien Festimed. Non, juste pour une petite, un petit enchaînement. Donc pour vous pouvez aussi découvrir d'autres films d'Amenabar au festival Med. Entre autres, par exemple, Ouvre les yeux, qui à mon avis est le meilleur film du réalisateur. Bon, c'est personnel, mais
tout à fait d'accord. Oui.
Voilà, c'est un film que j'apprécie beaucoup, qui repasse. Alors il passait hier soir à 21h, il repasse le 31. À 10h du matin, il va falloir être courageux. Vous avez aussi Les Autres, qui est programmé, donc qui est moins bon, mais qui est aussi assez intéressant.
Avec Nicole Kidman.
Voilà,
ce qui est paradoxal, c'est que les trois quarts des gens qui connaissent Amenabar, ne serait-ce que de nom, vont citer en premier lieu Les Autres.
Oui, parce qu'avec une grande star hollywoodienne.
C'est vrai, c'est
produit par Tom Cruise,
de comédiens américains.
Voilà, et Les Autres, donc ça, vous pourrez aller le voir le 31 également. Ce sera un peu plus tard, ce sera à 21h. Mais moi je vais vous parler d'un autre film alors qui fait partie de la sélection fantastique espagnole, parce que le festival méditerranéen, c'est également le moment propice pour redécouvrir certains films sortis avant notre naissance ou tout simplement boudés lors de leur sortie en salle, comme ceux d'Elio Petri. mais également comme les films de cette sélection fantastique espagnole. Et bon, comme moi, pour le coup, je suis courageux, je me suis rendu en bonne compagnie hier matin à 11h découvrir Les Enfants d'Abraham de Paco Plaza à l'opéra Berlioz. Alors de ce réalisateur, je ne connaissais que Rec, qui l'avait co-réalisé avec Jaume Balagueró. Et vu la claque que je m'étais pris devant ce film, huis clos, filmé en caméra subjective, qui nous plongeait dans un enfer peuplé de créatures enragées, eh bien, je m'attendais à m'éclater devant ce thriller ibérique bien emballé. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que Paco Plaza m'a pris un peu à contre-pied et m'a un petit peu refroidi. Donc, Les Enfants d'Abraham, c'est le premier long métrage du bonhomme. Alors, son titre original, c'est Second Name ou Segundo Nombre. Et ce film ouvre le bal des désillusions dès que les premières paroles sont prononcées. On se demande, mais pourquoi tout le monde y parle anglais? Ils se sont trompés de copie au festival ou quoi? Et en fait, non, ils ne se sont pas trompés de copie. Le film a été tourné en anglais. Alors pour ceux qui, comme moi, espéraient se régaler de l'accent tonique et des sonorités hispaniques, tant pis pour eux. Donc cette première petite déception passée, nous nous retrouvons à suivre Daniela, une jeune femme apparemment heureuse et à la vie bien ordonnée, dont le père vient de se suicider sans explication. Alors ne comprenant pas les raisons de cet acte qui la dépasse, Daniela va se plonger dans le passé de sa famille pour tenter de comprendre. Et rapidement, sa petite vie qui nous apparaissait bien lisse va voler en éclats. On apprend par exemple que sa mère est depuis des années dans un institut psychiatrique, que son père faisait partie d'une secte chrétienne aux pratiques peu orthodoxes et que tout ce qu'elle tenait pour acquis n'était que mensonge et dissimulation. Alors Paco Plaza prend son temps pour poser les bases de son histoire. Il va déployer dans le premier quart de son récit une mise en scène, une esthétique assez stylisée, qui peut nous laisser présager d'un film policier, bon, même s'il ne sera pas forcément très original, eh bien, pourrait peut-être nous offrir de bonnes surprises. Mais malheureusement, le film piétine et ça sent rapidement le réchauffer. On se dit qu'on a déjà vu ce film sans être vraiment sûr de ça. Il y a un peu de Rosemary's Baby dans l'air, un peu de Dario Argento et pas mal d'Amenabar également. Et bon, chaque nouveau retournement de situation s'avère être complètement prévisible. Chaque information donnée est martelée plusieurs fois pour que le spectateur inattentif ait le temps de l'intégrer. Donc le film déroule un scénario cousu de fil blanc et seules quelques scènes et quelques personnages arrivent à faire sortir du lot un peu ce film. Mais bon, sans jamais vraiment révolutionner l'ensemble. Alors du côté des points positifs, on retiendra cette atmosphère que Paco Plaza met en place progressivement, qui, bon, même si elle ne nous fera pas non plus frémir, arrive quand même à instaurer un certain malaise. Une très belle photo, un cadrage très intéressant, enfin certains plans particulièrement bien composés. Et bon, il y a certains personnages aussi, comme celui du policier, qui est à milieu du flic hollywoodien classique, qui nous réserve quelques petites surprises. Mais bon, c'est à peu près tout ce qu'il y a de notable. La mise en scène piétine rapidement, les personnages principaux n'arrivent jamais vraiment à nous émouvoir. Et le scénario sombre, comme je l'ai dit, petit à petit dans le n'importe quoi, avec un dernier acte particulièrement improbable, où on assiste à une illustration parfaite du vieux poncif du cinéma d'horreur, quand le héros descend à la cave, alors qu'il est sûr, qu'il sait à l'avance qu'elle sera envahie par les zombies. Donc voilà, c'est Les Enfants d'Abraham, c'est ni tout à fait assez mauvais pour être un film bis attachant, ni tout à fait assez bon pour flirter avec les grands dont il se réclame, alors en vrac Hitchcock ou Polanski. Et donc ce film ressemble surtout à un téléfilm dramatique, assez ambitieux, mais qui n'arrive jamais à sublimer son sujet. Et puis il faudra aussi qu'on m'explique pourquoi il a été sélectionné dans le cadre de cette rétrospective fantastique espagnole, vu qu'il n'y a pas déjà ça, non, mais c'est un film espagnol, c'est pour, pour l'exportation, ils l'ont tourné en anglais. Mais surtout, il n'y a pas une once de fantastique dans ce film. Voilà.
Bon, notre métier, ça va être de chercher l'info. Pourquoi, finalement, ça a été projeté?
Non, ou alors je suis passé à côté de quelque chose. Il faut dire aussi que la projection a été interrompue pendant un quart d'heure. On n'a plus de son dans l'opéra Berlioz. Voilà, donc on se serait cru au Diagonal. Mais bon, je pourrais plutôt vous conseiller d'aller voir ou revoir Rec de Paco Plaza et Jaume Balagueró.
La sortie du 2, là, qui est imminente.
Parce que Rec passe demain soir, présenté par Plaza, pardon, et il repassera également le 1er novembre à midi.
Merci Martin. On passe du côté des invités. On va parler rapidement des invités, mais Jean-François Bourgeot, directeur du festival, va nous en parler.
les stars du festival sont pas forcément les stars du petit écran. Et puis quelquefois, ça se recoupe, oui. Quand je dis que Frédéric Bell, il y a des gens qui vont venir pour voir Frédéric Bell, pour la voir en vrai, pour la toucher, pour lui demander un autographe, et c'est bien normal. Mais pour moi, c'est aussi déjà quelqu'un qui compte dans mon petit panthéon personnel de cinéphile. C'est vrai, bien sûr, de Clovis Cornillac. Clovis Cornillac, moi, je pense que c'est quelqu'un qui travaille peut-être trop, hein, si je devais, enfin, faudra peut-être pas lui répéter que j'ai dit ça. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui fait peut-être trop de films, qui fait peut-être pas.
Sous-entendu, il en fait des moins bons que d'autres.
Sous-entendu, faisant beaucoup de films, peut-être qu'il est pas assez sélectif sur ce qu'il choisit, mais on m'empêchera pas de penser que ce type est un vrai acteur et un bon acteur de cinéma. Donc voilà, il va faire comme Depardieu, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il va être génial, parce qu'il va être dans une histoire géniale, avec un metteur en scène génial. Et puis il y a des moments, il va laisser flotter les rubans, il va aller cachetonner, et ce sera moins bien. Voilà, je parle comme je pense, hein, mais ça, enfin, ce que je dis, c'est pas nouveau, sous le soleil, quoi. Hein, tout le monde connaît bien ces choses-là. Et puis, on va voir, je le disais tout à l'heure, Emmanuelle De Vos. Emmanuelle De Vos, elle fait partie typiquement, je dirais, des actrices qui sont identifiées par le grand public. C'est-à-dire que les gens, ils savent qu'ils l'ont vue, ils la connaissent, ils l'ont vue dans le cinéma de Jacques Audiard, ils l'ont vue chez De Pléchin, ils l'ont vue quand même dans des films. Alors, elle est répertoriée, elle est identifiée comme une femme qui est actrice plutôt dans un cinéma d'auteur, qui va plutôt vers un cinéma d'auteur, mais dont on sent bien qu'elle peut s'en échapper et elle peut aller... là aussi, on a un spectre assez large et c'est quelqu'un qui a... Et en plus, c'est quelqu'un qui a... au bon sens du terme, qui a une gueule. On dit rarement ça des femmes, d'ailleurs. Hein. On dit souvent qu'un mec a une gueule, qu'un acteur a une gueule, et que c'est... Bon. Et bien, elle a une gueule. Et elle a un jeu aussi, parce que... Alors là, il y a un truc constant avec Emmanuelle De Vos, c'est quand on demande à un réalisateur ce qu'il pense d'elle, un réalisateur qui l'a fait tourner, il dit, ben, elle est géniale, quoi. C'est-à-dire que le réalisateur a toujours l'impression qu'avec Emmanuelle De Vos, il n'y a rien à faire, quoi. Une fois qu'elle a accepté le film et qu'elle a lu le scénario, ben, elle est juste, elle est bonne, elle apporte quelque chose au personnage ou à la situation. Et donc, ça, c'est assez constant. Parce que ça, il m'est arrivé de questionner plusieurs réalisateurs sur Emmanuelle De Vos et c'était toujours ça la réponse, quoi.
Eh ben, il l'aime bien, on peut le dire. Jean-François Bourgeois, Emmanuelle De Vos, donc, qui sera avec Xavier Giannoli, qui est le réalisateur de À l'origine. La projection, c'est 21h, donc dans la salle Berlioz, et c'est demain jeudi. À noter qu'il a annoncé Clovis Cornillac, mais Clovis Cornillac ne sera pas présent sur le festival. Voilà, on a réalisé cette interview un peu en amont du festival. Donc, il restera l'avant-première de la Sainte Victoire. Ce sera ce vendredi à 21h30. Et puis, le samedi 31 octobre, au Gaumont Multiplex, à 14h cette fois-ci. Alors, s'il n'y aura pas Cornillac, eh bien, il y aura le réalisateur plus une actrice du film. Et puis, il a parlé de Frédéric Bell. Frédéric Bell qui joue dans les films d'Emmanuel Mouret, mais qui présentait aussi La Minute Blonde sur Canal+, et qui sera, elle, avec Julie Gayet, donc une autre actrice de Mouret, pour présenter Un baiser s'il vous plaît, le vendredi 30 à 19h dans la salle Berlioz. Et puis il y aura une table ronde aussi avec Emmanuel Mouret et ses actrices le samedi 31 à 16h. Voilà, je crois que pour les invités qui restent, c'est à peu près tout, puisque les autres sont déjà passés. Voilà. On passe à quoi déjà ? On passe à une autre chronique, hein, Cosmonauta.
Oui, bon, on va rester sur le festival méditerranéen. Donc Cosmonauta, donc voilà un film qui devrait trouver sans problème son public et qui devrait sortir en salle un peu partout d'ici peu. Donc Cosmonauta, c'est le premier long métrage de l'italienne Susanna Nicciarelli. Et avec ce film, la réalisatrice nous brosse le portrait d'une adolescente des années 60, élevée par ses parents dans l'amour du camarade Lénine et le respect du parti communiste. Donc ce film va nous faire suivre l'évolution de la jeune Luciana, qui est partagée entre son implication politique, ses premiers amours, et son frère épileptique, avec qui elle partage un véritable culte pour les réussites spatiales soviétiques, les cosmonautes russes et Laïka, la petite chienne de l'espace. Alors, juste pour l'anecdote, on a assisté, donc, avant la projection de ce film, à un vrai sketch de la part de l'inénarrable Henri Talva. Voilà, on a appris, entre autres choses, que eh bien, le président du festival avait une petite chienne du nom de Laïka.
Remarquable.
Voilà, donc il n'a pas beaucoup laissé parler la réalisatrice.
Hein, c'est étonnant, ça.
Ouais. Donc voilà, non, bah, c'est aussi le festival, hein, c'est ces personnages que le monde entier nous envie. Bon, revenons au film. Alors, donc, Cosmonauta s'ouvre sur des images de première communion, donc une cérémonie religieuse, tout ce qu'il y a de plus banal dans l'Italie des années 60, dominée par le parti de la démocratie chrétienne. Sauf que, eh bien, face à l'autel, une des petites filles en robe blanche fait brusquement demi-tour et s'enfuit jusqu'à chez elle pour s'enfermer dans les toilettes. Et quand sa mère, atterrée, essaye de lui faire entendre raison, la seule réponse qu'elle obtient de ce petit bout de chou de 8 ans, c'est « Je ne ferai pas ma première communion, je suis une communiste !» Donc voilà, les spectateurs sont rapidement plongés dans cette ambiance nostalgique mais assez joyeuse, et nous découvrons une galerie de personnages hauts en couleur, donc de la jeune Luciana en pleine crise d'adolescence, à son beau-père qu'elle ne supporte pas, en passant par les membres des jeunesses communistes, et par son frère Arturo, qui rêve aux étoiles et qui voue un culte à Yuri Gagarine. Donc la réalisatrice fait le pari avec ce film de nous raconter sa petite histoire, tout en l'ancrant dans la grande histoire, avec en toile de fond la course aux étoiles de ces années troublées par la guerre froide. Et le film nous entraînera donc à la découverte des sentiments de cette toute jeune femme et de ses difficultés à trouver une place dans un monde encore très macho. Alors, par ailleurs, le film est ponctué d'images d'archives de la conquête spatiale, ce qui est assez intéressant et ce qui vient apporter une touche originale à ce qui ressemble bah, finalement à un teen movie assez classique. Et les acteurs choisis par Susanna Nicchiarelli sont très vite attachants, avec une mention spéciale donc, pour les deux jeunes comédiens qui incarnent Luciana et son frère. Et bon, la reconstitution apporte un caractère particulier à ce film, mais malgré tout, on pourra regretter que l'ensemble reste un petit peu anecdotique. On est vraiment dans le teen movie. Alors bon, Cosmonauta s'avère être un petit film léger qui se regarde avec beaucoup de plaisir, pour peu qu'on se laisse embarquer, et qui a au moins le mérite de donner une bonne bouffée d'air frais au milieu d'une programmation plutôt aride hein, pour ce qui est des autres films. Voilà, donc ça c'est Cosmonauta. Alors je ne sais plus quand ça repasse, mais ça repasse peut-être demain. Voilà,
peut-être après-demain.
Peut-être après-demain.
Oui, question de meubler le temps, voilà. Qui... Mais tu vas retrouver cet horaire et puis on va parler de la nuit en enfer parce que ça on sait quand elle se déroule.
Oui, bah, la nuit en enfer c'est vendredi. Vendredi, alors par contre 20h30.
Ça le rappelait ?
Oui.
Oui.
20h30, je crois bien. 20h30, donc bah, avec cette année à l'honneur Alex de la Iglesia. Donc Alex de la Iglesia, tout le monde le connaît à peu près, pour au moins avoir vu un crime farpé comme moi. Alex de la Iglesia, donc, c'est un réalisateur espagnol qui adore employer l'humour noir et s'emparer de personnages issus du quotidien pour en faire voilà, des métrages assez frissonnants et donc bardés d'humour. Donc là, pendant La Nuit en Enfer, vous aurez l'occasion de... ah non, j'ai vu aussi Action Mutante, oui. C'était son premier film, un film un petit peu fauché, un peu barré aussi, quoi, mais assez distrayant. Il y a Le Jour de la Bête également qui passe, Perdita Durango avec Javier Bardem donc au casting. Mes chers voisins, et puis 800 balles. Donc voilà, donc ça risque de passer à peu près dans cet ordre-là. Et vous serez embarqué dans cette nuit en enfer pour 5 métrages successifs jusqu'au petit matin.
Voilà, donc c'est ça le Rabelais, et donc c'est ce vendredi. Donc soit c'est 20h, soit c'est 20h30, plutôt 20h30, t'as dit ?
Je crois 20h30, oui.
Et Martin, bon, alors, suspense insoutenable, tu retrouves l'horaire.
J'ai retrouvé l'horaire et c'est trop tard, vous l'avez raté. Voilà, donc non, la dernière séance était le 26. Mais bon, comme je vous disais donc, en début de chronique, c'est un film qui vraiment est léger et très grand public et qui ne devrait pas tarder à avoir droit à une exploitation en salle. Je pense que vous pourrez le voir au Diago ou à Utopia très prochainement, même peut-être dans les cinémas plus classiques, genre Gaumont, avec un magnifique doublage.
Sinon, Alex de Iglesia sera présent.
Oui, on peut préciser. Table ronde le lendemain, 14h. L'espace Joffre, hein, vraisemblablement.
Donc comme, au niveau du quorum.
Au niveau du quorum, premier étage. Voilà, il sera là. Alors ça, c'est d'ailleurs assez dommage, parce que j'aurais bien aimé qu'il soit là le matin. Pour justement pour poser quelques questions personnelles.
Voilà, des histoires de convenance personnelle, parce que toi, tu es dispo ce matin-là.
Ça aurait été assez intéressant. Ouais. Ouais. Donc là, il sera là quand même pour que les gens qui ont résisté à la nuit en enfer et qui ont découvert les films qui manquaient à leur répertoire viennent lui poser des myriades de questions auxquelles il se ferait une joie de répondre. Et il y aura apparemment Ril Talva avec lui. Hein.
Mmh, eh oui, ça c'est le danger. Et en revanche, on aura sans doute toute la discussion hein, de cette table ronde avec Alex D'Iglesia, comme tu as fait avec Amenabar. Et
oui, on pourra certainement se servir.
On pourra parler de son cinéma.
On verra.
On en a terminé avec le Cinémed, je suppose. Voilà, si ce n'est dire hein, que vous avez le programme sur www.cinemed-tm.fr et qu'il reste encore tout un tas de films. Moi, j'en ai vu 3-4, mais je n'ai pas spécialement envie d'en parler. Donc, voilà, je le ferai s'il reste du temps. À la fin de l'émission, en revanche, je vais vous parler d'un documentaire de Simone Bitton, qui est franco-israélienne, un documentaire qui s'appelle Rachel. Rachel, c'est une jeune pacifiste américaine écrasée par un bulldozer israélien dans la bande de Gaza. C'était en mars 2003, alors qu'elle tentait d'empêcher la destruction d'une maison palestinienne avec d'autres activistes pacifistes. Alors, dans ce lieu de la bande de Gaza, jouxtant la frontière égyptienne, les Israéliens préparent une espèce de no man's land d'au moins 500 mètres entre le mur frontière et les maisons des Palestiniens. Et patiemment, ils déboulent avec des bulldozers blindés entourés de chars. Et Rachel est morte dans des circonstances douteuses. Alors, l'armée israélienne a conclu avec son enquête que les deux conducteurs de bulldozers ne pouvaient la voir parce qu'elle était derrière un talus. Et Simone Bitton, eh bien, revient sur les faits, consulte les camarades de Rachel, l'armée israélienne, et laisse son spectateur se faire un jugement et on l'écoute.
Le défi, c'est pas seulement de faire une enquête, qui déjà, elle n'était pas facile, mais c'est de faire une enquête cinématographique, à savoir, les deux mots sont importants, le mot enquête et le mot cinéma. Le cinéaste n'est pas juge, ni journaliste, ni détective. L'enquête cinématographique, elle doit laisser une place à l'imaginaire du spectateur. Et à ses émotions. Je ne fais pas des films pour changer le monde. Je sais que les films ne changent pas le monde. Je fais des films pour partager avec le public ce qui est dans mon cœur. Pour m'exprimer, pour partager une émotion, pour raconter une histoire. Le film n'est pas un acte politique au sens de l'action directe.
Donc, l'enquête est motrice. La réalisatrice confronte les entretiens avec les habitants de Gaza, aidés par les militants ou les militants eux-mêmes avec ceux de l'armée israélienne, ou encore la porte-parole de l'armée, un inspecteur de la police militaire qui indiquera qu'il n'a pas pu mener une véritable enquête vu qu'il n'est même pas allé sur le terrain, et puis aussi une interview d'un jeune soldat qui explique qu'il a tué des civils, femmes et enfants, qu'il tirait sur les maisons par pure envie de divertissement, mais que sitôt dans le civil, il n'était pas un mauvais garçon. Et c'est à ce moment-là que je demande à Bruno, qui fait la technique aujourd'hui, de passer le son numéro 3, puisqu'on est en retard.
Le jeune soldat en Israël, comme dans des tas d'endroits, et bien sûr dans tous les conflits coloniaux, mais pas seulement dans les guerres, c'est un garçon très jeune, qui a le cerveau complètement lavé par... cette espèce de discours de défendre la démocratie et d'éradiquer le terrorisme. C'est avec ces mots-là qu'on fait les guerres coloniales d'aujourd'hui. Et puis il se retrouve à faire... 2 ans après, il se réveille et il se dit « Moi, j'ai fait ça, enfin, j'ai tiré sur des civils pour m'amuser, j'ai tué une femme et son enfant pour m'amuser. » Quand il dit « Dans la vie, je suis quelqu'un de très gentil, mais que, sous l'uniforme, je sais pas, je devenais quelqu'un d'autre », il est très sincère en disant ça.
Je ne pense pas qu'il dise ça pour
qu'on le plaigne ou quoi que ce soit. C'est vrai.
Il dit même qu'il le referait. Hein.
Ben, qu'il n'est pas sûr de ne pas le refaire, en tout cas, puisque en Israël, les hommes sont appelés à la réserve 40 jours par an. Il a peur de se retrouver dans la même situation et de refaire les mêmes gestes. Oui.
Rachel est un beau documentaire qui ne fait pas l'économie de propos rudes, hein, comme les propos de ce soldat, comme donc cette confession, et d'images bouleversantes. On voit ainsi plusieurs fois le corps de la jeune américaine ou un simple billard d'autopsie qui suffit à nous laisser imaginer qu'elle existait vraiment. Hein. Aussi, cette mort n'est pas déréalisée. Et sur fond d'enquête, Simone Bitton nous emmène sur le terrain de l'idéalisme avec ces jeunes gens qui viennent soit d'Angleterre, soit des États-Unis pour aider les Palestiniens. Elle nous emmène sur le terrain de l'utopie hein, et de ses limites et s'interroge sur le combat à mener contre les gouvernements déraisonnables pour mettre des guillemets quand on parle de l'État israélien. Voilà, Simone Bitton et son film Rachel sont projetés au Diagonale pendant encore une semaine. Donc ça, c'est complètement hors Cinémed. Ça aurait pu faire partie du Cinémed, mais comme il est sorti avant, c'était pas possible de le projeter durant le festival. C'est à toi, Martin.
Et il y a d'autres films qui auraient pu faire partie du Cinémed. Parce que pendant ce temps-là, au cinéma Diagonal, Antoine Périgniguez, eh bien, il ronge son frein pendant que tout le monde est au quorum. On lui avait dit que cette année, le festival établirait un partenariat avec les cinémas de la ville et tout ce qu'on lui a donné à se mettre sous la dent, ce sont trois pauvres avant-premières minables de films qui n'intéressent personne, auxquels vous pourrez assister d'ailleurs dès demain soir, après-demain soir et vendredi soir. Non, même ce soir, demain soir, vendredi soir. Donc voilà, lui qui s'attendait à voir débarquer dans son cinéma Penélope Cruz et Eduardo Noriega, eh bien, il a les boules. Alors pour se venger, il profite de l'engouement annuel des spectateurs pour le cinéma italien. Il nous offre une des ressorties les plus enthousiasmantes de cette année, et je mâche mes mots. À partir d'aujourd'hui, vous pourrez aller découvrir ou redécouvrir en salle Giù la testa de Sergio Leone, que vous connaissez sans doute sous son titre français « Il était une fois la Révolution ». Donc c'est le 8e film du réalisateur qui a lancé la mode du western européen, ce qu'on a appelé le western spaghetti. Et Giù la testa marque la seconde rupture dans la filmographie de Leone, puisqu'après avoir commencé sa carrière en troussant quelques péplums alimentaires, eh bien le réalisateur, grand admirateur de John Ford, se fera connaître pour ses westerns d'obédience classique. Son film « Pour une poignée de dollars », remake officieux du film japonais « Le garde du corps » de Kurosawa, deviendra le maître étalon du western spaghetti. Et après deux autres westerns de la même trempe, trilogie qu'on appellera plus tard la trilogie du dollar, Leone met un point d'orgue à son exploration du genre pour s'intéresser de façon un peu plus sérieuse à l'histoire de l'Amérique. En 1968, Il était une fois dans l'Ouest sort sur les écrans et vient un peu changer la donne. Donc il est plus classique que ses prédécesseurs. Le film est tourné avec des acteurs américains, dont Henry Fonda, dans les décors naturels de la Monument Valley en Arizona, là même où Fonda tournait 20 ans auparavant La poursuite infernale sous la direction de John Ford. Alors pour la petite histoire, Leone voulait tourner la scène d'introduction d'Il était une fois dans l'Ouest, où on voit Charles Bronson arriver en train et abattre trois bandits qui l'attendent. Eh bien, il voulait tourner cette scène avec les trois comédiens principaux de son précédent film. Malheureusement, malgré l'accord de Lee Van Cleef et de Eli Wallach, et suite au refus de Clint Eastwood de camper un des bandits abattus, eh bien, la scène a été tournée avec des inconnus. Mais bon, ça aurait pu être quelque chose. Donc, 3 ans plus tard, Sergio Leone rompt avec le western classique et va nous entraîner au Mexique pendant la révolution de 1913. Ce sera le second volet de sa future trilogie sur l'Amérique que viendra compléter en 1984, Il était une fois en Amérique. Donc, Il était une fois la révolution va nous faire suivre deux personnages que tout oppose, un péon mexicain braqueur de diligence, incarné par Rod Steiger, et un Irlandais, membre de l'IRA, pas encore fondé à l'époque, hein, pour l'anecdote, il sera fondé un peu plus tard. Mais bon, le personnage fait quand même partie de l'IRA, hein, c'est pas grave, qui est campé, lui, par James Coburn, qui vont se retrouver, eh bien, tous deux plongés dans la révolution, un peu contre leur gré. Donc avec ce film, Sergio Leone commence par détruire les figures classiques du western pour nous plonger dans le monde moderne, hein, où les chevaux sont remplacés par des motos, les Winchesters par des mitraillettes, et où la soif de l'or laisse place à la foi révolutionnaire. Donc Giù la testa, c'est un grand film malade, hein, ni un western, ni un film de guerre, et ça restera un souvenir douloureux pour Leone, qui s'occupa de la mise en scène après le désistement de Sam Peckinpah. Donc les violents affrontements qu'il a eus avec le comédien Rod Steiger, les réécritures et autres concessions faites au producteur feront que Leone ne sera jamais vraiment satisfait de son enfant mal formé, comme il aimait appeler ce film. Mais bon, malgré tout, Giù la testa reste un très grand film qui, pour la première fois, mélange préoccupations politiques aux thématiques classiques du western. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse aller voir ou revoir ce bijou de cinéma. Et histoire que vous ayez une bonne rengaine pour toute la semaine, je vais vous faire écouter juste quelques minutes d'un extrait de la bande originale du film. Thank you. Voilà, donc musique de Ennio Morricone pour le film Il était une fois la Révolution de Sergio Leone, que vous pouvez aller découvrir à partir d'aujourd'hui au Diagonale.
Ainsi s'achève Cinérama. On est forcément pressé, donc on a parlé essentiellement du Cinémed. Il s'achève le 1er novembre, dimanche soir, avec... zut, j'ai oublié, tant pis. Toi, Martin, tu as le... Tu as le programme.
Vite, le programme.
C'est un film italien et c'est tous de...
Il Fanfarone, si vous l'avez raté, il passait au Diagonale il n'y a pas longtemps. Il passe au Ciné-Club Jean Vigo, quelle
voilà, originalité, parce que incroyable. Mais non, mais c'est traditionnellement, d'accord, la clôture du festival, c'est le début, c'est le premier film du Ciné-Club Jean Vigo.
C'est pour ça.
Et oui, c'est la connexion Henri Talva, tu vois.
La clôture a lieu samedi.
Oui, voilà, le palmarès, effectivement, ce sera samedi soir. Et donc aussi avec la projection du Francis Ford Coppola, du dernier film tourné en Argentine. Voilà, on revient la semaine prochaine, peut-être encore avec des interviews réalisées avec les invités nombreux du Ciné-Med ou Festi-Med, comme
Festi-Med,
tu aimes,
que j'ai rebaptisé. Voilà. Voilà.
Et sinon, on vous souhaite une bonne semaine de cinéma. Et à la fin de ce générique, on écoutera Gabin.
Bonne semaine.
Au revoir.
Et naturellement, un grand merci à Bruno avec une petite intérim de Ellie.
La putain et le micheton, tu trouves ça mieux, toi? Puis d'abord, ça va comme ça, tu vas faire tes valises et tu vas rentrer.
Non.
Quoi?
Non, tu rentres, moi je reste. La rue des Prairies, c'est terminé. Parce que figure-toi que j'en ai marre de faire la boniche.
La boniche de qui?
La tienne. J'en ai marre de préparer la tambouille pour 4 personnes, de me déshabiller dans la cuisine et de faire ma toilette sur l'évier.
Je la fais bien, moi.
Oui, seulement toi, le progrès.
Ah, parce que se laver le train dans un hôtel de passe, t'appelles ça le progrès, toi?
Sois grossier, ça arrange tout. Et puis ta morale, j'en ai rien à foutre. Ça fait 20 ans que je voyage en troisième avec ce ticket-là. Maintenant, je suis en première et j'y reste.
Cinérama.
C'est le supplément pour les couchettes.
Sur Divergence FM.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous téléphoner. Vous faites le 17, c'est facile.
Ah non, c'est le 14.
Non, le 14, c'est les télégrammes.
Mais les pompiers,
c'est le 18. D'ailleurs, si vous voulez vous renseigner, faites le 12. Sans rancune.